Charles de Coster, la légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses, d'Eulenspiegel et de Lammegeut-Zack, au pays de Flandre et ailleurs, 1867. Livre premier. À Dame en Flandre, quand mai ouvrait leurs fleurs aux aubépines, naquit Eulenspiegel, fils de Claes. Une commère sage-femme et nommée Kathleen l'enveloppa de linge chaud, et lui en regardait la tête, y montra une peau. « Coiffé, né sous une bonne étoile !» dit-elle joyeusement. Mais bientôt se lamentant et désignant un petit point noir sur l'épaule de l'enfant, « Hélas » pleura-t-elle, « c'est la noire marque du doigt du diable !» Monsieur Satan, reprit Claes, s'est donc levé de bien bonne heure, qu'il ait déjà eu le temps de marquer mon fils. Il n'était pas couché, dit Kathleen, car voici seulement Chantelaire qui éveille les poules. Et elle sortit, mettant l'enfant aux mains de Claes. Puis l'aube creva les nuages nocturnes, les hirondelles rasèrent en criant les prairies et le soleil montra pourpre à l'horizon sa face blouissante. Claes ouvrit la fenêtre et parlant à Eulenspiegel, « Fils coiffé, dit-il, voici mon seigneur du soleil qui vient saluer la terre de Flandre. Regarde-le quand tu le pourras et quand plus tard tu seras empêtré en quelque doute, ne sachant ce qu'il faut faire pour agir bien. Demande-lui conseil, il est clair et chaud. « Sois sincère comme il est clair et bon comme il est chaud. »« Claes, mon bonhomme, dit Sutkin, tu prêches un sourd, allez, viens boire, mon fils. » Et la mère offrit de nouveau-né ses beaux flacons de nature. Pendant que Eulenspiegel y buvait à même, tous les oiseaux s'éveillèrent dans la campagne. Claes, qui liait des fagots, regardait sa commère donner le sein à Eulenspiegel. Femme, dit-il, as-tu fait provision de ce bon lait? Les cruches sont pleines, dit-elle, mais c'est pas assez pour ma joie. Tu parles d'un si grand heure bien piteusement. Ben, je songe, dit-elle, qu'il n'y a pas un traître pâtard dans le curé que tu veux la prendre au mur. Claes prit en main le cuiré. Mais il eut beau le secouer, il n'y entendit nul aubade de monnaie. Il en fut penaud, alors voulant toutefois réconforter sa commère. « De quoi t'inquiètes-tu » dit-il. « N'avons-nous pas dans la huche le gâteau qu'hier nous offrit Kathleen ? Ne vois-je pas là un grand morceau de bœuf qui fera au moins pendant 3 jours du bon lait pour l'enfant ? Ce sac de fèves si bien tapi en ce coin est-il prophète de famine ? Est-elle fantôme, cette tinette de beurre? Sont-ce des spectres que ces enseignes et guidons de pommes rangés guerrièrement par 11 en ligne dans le grenier? N'est-ce point annonce de fraîche buverie que le gros bonhomme tonneau du Q8 de Bruges qui garde en sa panse notre rafraîchissement? Eh, il nous faudra, dit Sutkin, quand on portera l'enfant au baptême, donner 2 patards au prêtre et 1 florin pour le festin. » Sur ce, Kathleen entra, tenant un gros bouquet de plantes, et dit « J'offre à l'enfant, coiffé, l'angélique qui préserve l'homme de luxure et le fenouil qui éloigne Satan. » « N'as-tu pas, demanda Claes, l'herbe qui appelle les florins ? Oh non, dit-elle. Donc, dit-il, je vais voir s'il y en a point dans le canal. Il s'en fut, portant sa ligne et son filet, certain au demeurant de ne rencontrer personne, car il n'était qu'une heure avant l'Oosterzon, qui est en Flandre le soleil de 6 heures. Claes vint au canal de Bruges, non loin de la mer. Là, mettant l'appât à sa ligne, il la lança à l'eau et il laissa descendre son filet. Un petit garçonnet, bien vêtu, était sur l'autre bord, dormant comme souche sur un bouquet de moules. Il s'éveilla au bruit que faisait Claes et voulut s'enfuir, craignant que ce ne fût quelque sergent de la commune venant le déloger de son lit et le mener au Stein pour vacations illicites. Mais il cessa d'avoir peur quand il reconnut Claës et que celui-ci lui cria « Veux-tu gagner 6 liards ? Allez, chasse le poisson par ici !» Le garçonnaire, à ce propos, entra dans l'eau avec sa petite bedonnante d'enfoivaf gonflée et s'armant d'apanage de grands roseaux, chassa le poisson vers Claës. La pêche finie, Claës retira son filet et sa ligne et, marchant sur l'écluse, vint près du garçonnet. « C'est toi, dit-il, que l'on nomme l'âme de ton nom de baptême et Godzac à cause de ton doux caractère et qui demeure rue du Héron, derrière Notre-Dame. Mais comment, si jeune et si bien vêtu, te faut-il dormir sur un lit public ?»« Lâche, monsieur du Charbonnier, répondit le garçonnet, j'ai au logis une sœur plus jeune que moi d'un an et qui me daube à grands coups à la moindre querelle. Mais j'ose sur son dos prendre ma revanche, car je lui ferai mal, monsieur. Hier, au souper, j'eus grand faim et nettoyais de mes doigts le fond d'un plat de bœuf aux fèves dont elle voulait avoir sa part. Il n'y en avait pas assez pour moi, monsieur. Alors quand elle me vit me pourler champs à cause du bon goût de la sauce, elle devint comme enragée et me frappa à toute main de si grandes gifles que je m'en fus tout meurtri de la maison. » Claës lui demanda ce que faisaient ses pères et mères pendant cette giflerie. L'âme Godzac répondit « Mon père me battait sur une épaule et ma mère sur l'autre en me disant « Mais revenge-toi, couard !» Mais moi, voulant pas frapper une fille, je me suis enfui. » Et soudain, l'âme blêmit et trembla de tous ses membres. Et Claës vit venir une grande femme et marchant à côté d'elle une fillette maigre et d'aspect farouche. Ah ! Dit l'âme tenant Claës au bout de chausse. Voici ma mère et ma sœur qui me viennent quérir. Protégez-moi, monsieur du Charbonnier. Tiens, dit Claës, prends d'abord ces 7 liards pour salaire, et allons à elle sans peur. Quand les deux femmes virent l'âme, elles coururent à lui et toutes deux le voulurent battre. La mère parce qu'elle avait été inquiète et la sœur parce qu'elle en avait l'habitude. L'âme se cachait derrière Claës et criait « J'ai gagné 7 liards, j'ai gagné 7 liards, ne me battez point !» Mais la mère l'embrassait déjà, tandis que la fillette voulait de force ouvrir les mains de l'âme pour avoir son argent. Mais l'âme cria « C'est le mien, tu l'auras pas !» Et il serrait les poings. Claës toutefois secoua rudement la fillette par les oreilles et lui dit « S'il t'arrive encore de chercher l'oise à ton frère, qui est bon et doux comme un agneau, je te mettrai dans un trou noir à charbon. Et là ce ne sera plus moi qui te tirerai les oreilles, mais le rouge diable d'enfer qui te mettra en morceaux avec ses grandes griffes et ses dents qui sont comme fourches. » À ce propos, la fillette, n'osant plus regarder Claës ni s'approcher de l'âme, s'abrita derrière les jupons de sa mère. Mais en entrant en ville, elle criait partout « Le charbonnier m'a abattu, il a le diable dans sa cave !» Cependant, elle ne frappa plus l'âme davantage, mais, étant grande, le fit travailler à sa place. Le doux niais le faisait volontiers. Claës avait, cheminant, vendu sa pêche à un fermier qui la lui achetait de coutume. Rentrant au logis, il dit à Soetkin « Voici ce que j'ai trouvé dans le ventre de 4 brochets, de 9 carpes, dans un plein panier d'anguilles. » Et il jeta 2 florins et 1 patard sur la table. « Que ne vas-tu chaque jour à la pêche, mon homme ?» demanda Soetkin. Claës répondit « Afin de ne point devenir moi-même poisson à ce filet des sergents de la commune. » On appelait à dame le père d'Ullenspiegel, Claës, le Koldreiger ou charbonnier. Claes avait le poil noir, les yeux brillants, la peau de la couleur de sa marchandise, sauf le dimanche et les jours de fête, quand il y avait abondance de savon à la chaumière. Il était petit, carré, fort et de face joyeuse. Si la journée finie et le soir tombant, il allait en quelque taverne sur la route de Bruges, laver de cuite son gosier noir de charbon, toutes les femmes, humant le serin sur le pas de leur porte, lui criaient amicalement « Bonsoir et bière claire, charbonnier !»« Bonsoir et à Marie qui veille !» répondait Claes. Et les fillettes, qui revenaient des champs par troupes, se plaçaient toutes devant lui de façon à l'empêcher de marcher, et lui disaient « Que payes-tu pour ton droit de passage? Ruban écarlate, boucle dorée, souliers de velours ou florin pour aumônière ?» Mais Claes en prenait une par la taille et lui baisait les joues, le cou, suivant que sa bouche était plus proche de la chair fraîche. Puis il disait « Demandez, mignonne, demandez le reste à vos amoureux !» Et elle s'en allait, s'éclatant de rire. Les enfants reconnaissaient Claes à sa grosse voix et au bruit de ses souliers. Courant à lui, il lui disait « Bonsoir, charbonnier !»« Autant Dieu vous donne mes angelots !» disait Claes. « Mais ne m'approchez pas, sinon je ferai de vous des moricots !» Les petits, étant hardis, s'approchaient toutefois. Alors il en prenait un par le pourpoint, et frottant de ses mains noires son frais museau, le renvoyait ainsi, riant quand même à la grande joie de tous les autres. Soetkin, la femme de Claes, était une bonne commère, matinale comme l'aube et diligente comme la fourmi. Elle et Claes labouraient à deux leurs champs et s'attelaient comme bœufs à la charrue. Pénible en était le traînement, mais plus pénible encore, celui de la herse lorsque le champêtre engin devait de ses dents de bois déchirer la terre dure. Il le faisait toutefois le cœur gai en chantant quelques ballades. Et la terre avait beau être dure, en vain le soleil dardait sur eux ses plus chauds rayons, en vain aussi, traînant la herse, ployant les genoux, devait-il faire des reins cruels et forts, s'il s'arrêtait et que Soetkin tourna vers Claes son doux visage, et que Claes baisa ce miroir d'âme tendre, ils oubliaient la grande fatigue. La veille, il avait été crié au bail de la maison commune que madame, femme de l'empereur Charles, étant grosse, il fallait dire des prières pour sa prochaine délivrance. Catherine entra chez Claes toute frissante. « Qu'est-ce qui te deux, commère ?» demanda le bonhomme. « Las, répondit-elle, parlant par saccade, « cette nuit, spectre fauchant homme comme faneur l'herbe, fillette enterrée vive !» Sur leur corps dansait le bourreau. Pierre de Suan, suait depuis 9 mois, cassé cette nuit. Ayez pitié de nous, gémit Soetkin, ayez pitié, Seigneur Dieu, ces noirs présages pour la terre de Flandre. Mais t'as vu cela de tes yeux ou en songe ? Demanda Claes. De mes yeux, dit Kathleen. Catherine, toute blême et pleurant, parla encore et dit « Deux enfantelets sont nés, l'un en Espagne, c'est l'enfant Philippe, et l'autre en pays de Flandre. C'est le fils de Claes, qui sera plus tard surnommé Eulenspiegel. Philippe deviendra bourreau, ayant été engendré par Charles Ve, meurtrier de nos pays. Et Eulenspiegel sera grand docteur en joyeux propos et bâti follement de jeunesse. Mais il aura le cœur bon, ayant eu pour père Claes, le vaillant manouvrier, sachant en toute braveté, honnêteté et douceur, gagner son pain. Charles empereur et Philippe roi chevaucheront par la vie, faisant le mal par bataille, exaction et autres crimes. Et Claes, travaillant toute la semaine, et vivant, suivant droit et loi, et riant au lieu de pleurer en cellule la beurre, sera le modèle des bons manouvriers de Flandre. Eulenspiegel, toujours jeune et qui ne mourra point, courra par le monde sans se fixer on qu'en un lieu. Et il sera manant, noble homme, peintre, sculpteur, le tout ensemble. Et par le monde ainsi se promènera, louant choses belles et bonnes et se gaussant de sottises à pleine gueule. Clay, c'est ton courage, noble peuple de Flandre, Sutkin est ta mère vaillante, Eulenspiegel est ton esprit. Une mignonne et gente fillette, compagne d'Eulenspiegel et comme lui mortelle, sera ton cœur et une grosse bedaine, l'âme Goulzac sera ton estomac. Et en haut se tiendront les mangeurs de peuple, en bas les victimes, en haut frelons voleurs et en bas abeilles glorieuses et laborieuses, et dans le ciel saigneront les plaies du Christ. Ce qu'ayant dit, s'endormit Catherine, la bonne sorcière. On portait Eulenspiegel à baptême. Soudain, chute, une averse qui le mouilla bien. Ainsi fut-il baptisé pour la première fois. Et quand il entra dans l'église, il fut dit aux parrains et marraines, père et mère, par le bedeau schoolmaster, maître d'école, qu'ils eussent à se placer autour de la piscine baptismale, ce qu'ils firent. Mais il y avait à la voûte au-dessus de la piscine un trou fait par un maçon pour y suspendre une lampe à une étoile en bois doré. Le maçon, considérant d'en haut le parrain et marraine debout roidement autour de la piscine coiffé de son couvercle, versa par le trou de la voûte un traître d'eau, seau d'eau, qui tombant entre eux sur le couvercle de la piscine, fit grand éclaboussement. Mais Eulenspiegel eut la plus grande part, et ainsi il fut baptisé pour la deuxième fois. Le doyen vint, ils se plaignirent à lui, mais il leur dit de se hâter et que c'était un accident. Eulenspiegel se démenait à cause de l'eau tombée sur lui. Le doyen lui donna le sel et l'eau et le nomma Tilbert, qui veut dire riche en mouvement. Il fut ainsi baptisé pour la troisième fois. Sortant de Notre-Dame, ils entrèrent vis-à-vis de l'église dans la rue longue au rosaire des bouteilles, dont une cruche formait le credo. Ils y burent 17 pintes de Doppelkwit et davantage. Car c'est la vraie façon en Flandre, pour sécher les gens mouillés, d'allumer un feu de bière en la bedaine. Eulenspiegel fut ainsi baptisé pour la quatrième fois. S'en retournant au logis et zigzagant par le chemin, la tête plus que le corps pesante, ils vinrent à un ponton jeté sur une petite mare, et Catherine, qui était marraine, portait l'enfant. Elle fit un faux pas et tomba dans la boue avec Eulenspiegel, qui fut ainsi baptisé pour la cinquième fois. Mais on le retira de la mare pour le laver d'eau chaude dans la maison de Claes, et ce fut son sixième baptême. Ce jour-là, sa Sainte Majesté Charles résolut de donner de belles fêtes pour bien célébrer la naissance de son fils. Elle résolut, comme Claes, d'aller à la pêche, non en un canal, mais dans les aumônières et cuirées de ses peuples. C'est de là que les lignes souveraines tirent Crusade, Elder d'argent, Lion d'or, et tous ces poissons merveilleux, se changeant à la volonté du pêcheur en robes de velours, précieux bijoux, vin exquis et fine nourriture. Car les rivières les plus poissonneuses ne sont pas celles où il y a le plus d'eau. Ayant assemblé ceux de son conseil, sa Sainte Majesté résolut que la pêche se ferait de la façon suivante. Le seigneur infant serait porté à baptême vers les 9 ou 10 heures. Les habitants de Valladolid, pour montrer leur joie grande, mêleraient noces et festins toute la nuit à leurs frais, et sèmeraient sur la grande place leur argent pour les pauvres. Il y aurait à cinq carrefours une grande fontaine, d'où jaillirait par flots jusqu'à l'aube du gros vin payé par la ville. À cinq autres carrefours seraient rangés sur édifices de bois, saucissons, cervelas, boutards, gandouilles, langues de bœuf, et autres viandes aussi à la charge de la ville. Ceux de Valladolid élèveraient en grand nombre à leurs dépens, sur le passage du cortège, des arcs de triomphe représentant la paix, la félicité, l'abondance, la fortune propice et emblématiquement tous ces quelconques noms du ciel dont ils furent comblés sous le règne de sa Sainte Majesté. Finalement, outre ces arcs pacifiques, il en serait placé quelques autres où l'on verrait peints en vives couleurs des attributs moins bénins tels que aigle, lion, lance, hallebarde, épieux à langue flamboyante, aquebutes à crocs, canons, fauconneaux, courtois à grosse gueule et autres engins montrant imagièrement la force et puissance guerrière de sa Sainte Majesté. Quant aux lumières à éclairer l'église, il serait permis à la guilde des ciriers de fabriquer gratis plus de 20 000 cierges dont les bouts non consumés reviendraient au chapitre. Pour ce qui était des autres dépenses, l'empereur les ferait volontiers, montrant ainsi son bon vouloir de ne pas trop charger ses peuples. Comme la commune allait exécuter ses ordres, arrivèrent de Rome nouvelles lamentables. D'Orange, d'Alençon et Fürstenberg, capitaines de l'empereur, étaient entrés en la sainte ville, y avaient saccagé et pillé les églises, chapelles et maisons, n'épargnant personne, prêtre, nonnes, femmes ni enfants. Le Saint-Père avait été fait prisonnier. Depuis une semaine, le pillage n'avait point cessé, et Reiter et Lanckners vaquaient par Rome, saoulés de nourriture, ivres de beuverie, brandissant leurs armes, cherchant les cardinaux et disant qu'ils tailleraient assez dans leur cuir pour les empêcher de devenir jamais papes. D'autres, ayant déjà exécuté cette menace, se promenaient fièrement dans la ville, portant sur leur poitrine des chapelets de 28 grains ou davantage, gros comme des noix et tout sanglants. Certaines rues étaient de rouges ruisseaux où gisaient des pouilles et des cadavres des morts. D'aucuns dirent que l'empereur avait besoin d'argent, avait voulu empêcher dans le sang ecclésiastique et qu'ayant pris connaissance du traité imposé par ses capitaines aux pontifes prisonniers, il le força à céder toutes les places fortes de ses états, à payer 400 000 ducats et à demeurer en prison jusqu'à ce qu'il se fût exécuté. Toutefois, la douleur de sa majesté était grande, et il décommanda tous les apprêts de joie, fêtes et réjouissances, et ordonna de prendre le deuil aux seigneurs et dames de son hôtel. Et l'infant fut baptisé en ces langes blancs, qui sont l'ange de deuil royal. Ce que les seigneurs et dames interprétèrent à sinistre présage. Nonobstant ce, Madame la nourrice présenta l'infant aux seigneurs et dames de l'hôtel, afin que ceux-ci lui fissent selon la coutume, leurs souhaits et dons. Madame de la Coenna lui appendit au cou une pierre noire contre le poison, ayant forme et grosseur d'une noisette, dont les cales étaient d'or. Madame de Chauffade lui attacha un fil de soie, pendant sur l'estomac, une aveline précipitative de bonne concoction d'aliments. Messire Van der Steen de Flandre lui offrit un saucisson de gant, long de 5 coudées et gros d'une demi, en souhaitant humblement à son Altesse qu'à sa seule odeur elle eût soin de Clanwert, grantoisement disant que quiconque aime la bière d'une ville n'en peut haïr les brasseurs. Messire et écuyer Jacques Christophe de Castille pria Monseigneur Infant de porter à ses pieds mignons jaspe vert, pour le faire bien courir. Jean de Pepe, le fou, qui était là, dit « Messire, donnez-lui plutôt le corps de Josué, au son duquel toutes les villes couraient le grand trotton devant lui, allant poser ailleurs leur assiette avec tous leurs habitants, hommes, femmes et enfants. Car mon Seigneur ne doit pas apprendre à courir, mais à faire courir les autres. » Les pleurées veuves de Floris Van Borsel, qui fut seigneur de Veer au pays de Zélande, donna à Monseigneur Philippe une pierre qui rendait, disait-elle, les hommes amoureux et les femmes inconsolables. Mais l'infant geignait comme veau. Cependant, Claës mettait aux mains de son fils un hochet d'osier à grelot et disait, faisant danser Eulenspiegel sur sa main, « Grelot, grelot tatinabulant, puisses-tu en avoir toujours à ta toque, petit homme, car c'est au fou qu'appartient le royaume du bon temps. » Et Eulenspiegel riait. Claës ayant pêché un gros saumon, ce saumon fut mangé par lui un dimanche et aussi par Skin, Kathleen et le petit Eulenspiegel, mais Kathleen ne mangea pas plus qu'un oiseau. « Commère, lui dit Claës, l'air de Flandre est-il si solide présentement qu'il te suffise de le respirer pour en être nourri comme d'un plat de viande? Quand vivra-t-on ainsi? Les pluies seraient de bonne soupe, il grêlerait des fèves et des neiges, chargées en célestes fricassées, réconforterait les pauvres voyageurs. » Kathleen, hochant la tête, ne sonnait mot. « Voyez, dit Claës, l'indolente commère, mais qu'est-ce donc qui la navre ?» Mais Kathleen, parlant avec une voix qui était comme un souffle, « Oh, le méchant, dit-elle, nuit homme noir, je l'entends annonçant sa venue, criant comme orfraie, frissante, je prie Madame la Vierge, en vain. Pour lui, ni mur n'y est, porte ni fenêtre, entre partout comme esprit, échelle craquant, lui, près de moi, dans le grenier où je dors, me saisit de ses bras froids, durs comme marbre, visage glacé, baisers humides comme neige, chaumine ballottée par la terre, se mouvant comme barque sur une tempétueuse. Ah, il faut, dit Claës, aller chaque matin à la messe, afin que Monseigneur Jésus te donne la force de chasser ce fantôme venu d'en bas. Mais il est si beau, dit-elle. Eulenspiegel était, c'est vrai, et grandi comme un jeune peuplier. Claës alors ne le baisa plus fréquemment, mais l'aima d'un air bourru afin de le point affadir. Quand Eulenspiegel revenait au logis, se plaignant d'avoir été daubé en quelques rixes, Claës le battait parce qu'il n'avait point battu les autres, et ainsi éduqué, Eulenspiegel devint vaillant comme un lionceau. Si Claës était absent, Eulenspiegel demandait à Sutkin un liard pour aller jouer. Sutkin, se fâchant, disait « Mais qu'as-tu besoin d'aller jouer? Tu ferais bien de demeurer séant à lier des fagots. » Voyant qu'elle ne donnait rien, Eulenspiegel criait comme un aigle, mais Sutkin menait grand bruit de chaudron et d'écuelle, qu'elle lavait en un seau de bois pour faire mine de ne le point entendre. Eulenspiegel alors pleurait, et la douce mère, laissant sa feinte dureté, venait à lui, le caressait et disait « As-tu assez d'un denier ?» Or, notez que le denier valait 6 liards. Ainsi elle l'aima trop, et lorsque Claës n'était point là, Eulenspiegel fut roi en la maison. Un matin, Sutkin vit Claës qui, la tête basse, errait dans la cuisine comme un homme perdu dans ses réflexions. « De quoi souffres-tu, mon homme ? » dit-elle. « Tu es pâle, colère et distrait. » Claës répondit à voix basse comme un chien qui gronde. Il va renouveler les cruels placards de l'empereur. La mort va de nouveau planer sur la terre de Flandre. Les dénonciateurs auront la moitié des biens des victimes si les biens n'excèdent pas 100 florins carolus. Nous sommes pauvres, dit-elle. Pauvres, dit-il, pas assez. Il est de ces vils gens, vautours et corbeaux vivant des morts, qui nous dénoncerait aussi bien pour partager avec sa sainte majesté un panier de charbon qu'un sac de carolus. Que possédait la pauvre Tannenken, veuve de Cis le tailleur, qui mourut à Aïs d'enterrée vive? Une Bible latine, 3 florins d'or et quelques ustensiles de ménage en étain d'Angleterre, que convoitait sa voisine. Johanna Martens fut brûlée comme sorcière, et auparavant jetée à l'eau, car son corps avait surnagé où l'on y vit du sortilège. Elle avait quelques meubles chétifs, 7 carolus d'or en un cuiret, et le dénonciateur voulait en avoir la moitié. Hélas, je te pourrais parler ainsi jusqu'à demain, mais viens-nous en commère. La vie n'est plus viable en Fendre à cause des placards. Bientôt, chaque nuit, le chariot de la mort passera par la ville, et nous y entendrons le squelette s'y agitant avec un sec bruit d'os. Soetkin dit : Oh, il faut point me faire peur, mon homme. L'empereur est le père de Flandre et Brabant, et comme tel, doué de longanimité, douceur, patience et miséricorde. Ah, il y perdrait trop, répondit Claes, car il hérite des biens confisqués. Soudain sonna la trompette et grincèrent les cymbales du héros de la ville. Claes et Sodklin, portant tour à tour Eulenspiegel dans leurs bras, coururent au bruit avec la foule du peuple. Ils vinrent à la maison commune, devant laquelle se tenaient sur leurs chevaux les héros, sonnant de la trompe et battant les cymbales, le prévôt tenant la verge de justice et le procureur de la commune à cheval, tenant des deux mains une ordonnance de l'empereur et se préparant à la lire à la foule assemblée. Claes entendit bien qu'il y était de rechef défendu à tous en général et en particulier d'imprimer, de lire, d'avoir ou de soutenir les écrits, livres ou doctrines de Martin Luther, de Johannes Wyclef, Johannes Huss, Marsilius de Padua, Aecolampadius, Ulricus, Zwinglius, Philippus, Melanchthon, Franciscus Lambertus, Johannes Pomeranus, Otto Brancelsius, Justus Jonas, Johannes Puperis et Corvianus, les Nouveaux Testaments imprimés par Adrien de Berg, Christophe de Raymonda et Joseph Zell, plein des hérésies luthériennes et autres, réprouvés et condamnés par la faculté des théologiens de l'université de Louvain. Ni semblablement de peindre ou pourtraire ou faire peindre ou pourtraire peintures ou figures opprobrieuses de Dieu et de bénévoites, Vierge Marie et de ses saints, ou de rompre, casser ou effacer les images ou portraitures qui seraient faits à l'honneur, souvenance ou remembrance de Dieu et de la Vierge Marie ou des saints approuvés de l'Église. En outre, disait le placard, que nul, de quelque état qu'il fût, ne s'avança à communiquer ou disputer de la Sainte Écriture, mêmement en pareille matière douteuse, si l'on était théologien bien renommé et approuvé de par université fameuse. Et sa Sainte Majesté statuait entre autres peines que les suspects ne pourraient jamais exercer d'état honorable. Quant aux hommes retombés dans leur erreur ou qui s'y obstineraient, ils seraient condamnés à être brûlés à un feu doux ou vif dans une maison de paille ou attachés à un poteau à l'arbitraire du juge. Les hommes seraient exécutés par l'épée s'ils étaient nobles ou bons bourgeois, et les manants le seraient par la potence et les femmes par la fosse. Leur tête, pour l'exemple, devait être plantée sur un pieu. Il y avait, au bénéfice de l'empereur, confiscation des biens de tous ceux gisant aux endroits sujets à la confiscation. Sa Sainte Majesté accordait aux dénonciateurs la moitié de tout ce que les morts avaient possédé, si les biens de ceux-ci n'atteignaient pas 100 livres de gros monnaie de Flandre pour une fois. Quant à la part de l'empereur, il se réservait de l'employer en œuvre pie et de miséricorde, comme il le fit au sac de Rome. Éclair s'en fut avec Sotkin et Eulenspiegel, tristement. L'année ayant été bonne, Claës acheta pour 7 florins un âne et 9 rasières de poids, et il monta un matin sur sa bête. Eulenspiegel se tenait en croupe derrière lui. Ils allaient, en cet équipage, saluer leur oncle et frère aîné, Jos Claës, demeurant non loin de Meiborg au pays d'Allemagne. Jos, qui fut simple et doux de cœur en son bel âge, ayant souffert de diverses injustices, devint quinteux. Son sang tourna en bile noire, il prit les hommes en haine et vécut solitaire. Son plaisir fut alors de faire s'entrebattre 2 soi-disant fidèles amis, et il baillait 3 patards à celui des 2 qui daubait l'autre le plus amèrement. Il aimait aussi de rassembler en une salle bien chauffée des commères en grand nombre et des plus vierges et hargneuses, et leur donnait à manger du pain rôti et à boire de l'hypocras. Il baillait à celles qui avaient plus de 60 ans de la laine à tricoter en quelques coins, le recommandant au demeurant de bien toujours laisser croître leurs ongles. Et c'était merveille à entendre que les gargouillements, clapotements de langue, méchants babiles, tous et crachotements aigres de ces vieilles houboues, qui leur affiquaient sous les selles, grignotaient en commun l'honneur du prochain. Quand il les voyait bien animés, Georges jetait dans le feu une brosse, du rôtissement de laquelle l'air était tout soudain puanti. Les commères, alors, parlant toutes à la fois, s'entre-accusaient d'être la cause de l'odeur. Toutes niant le fait, elles se prenaient bientôt aux cheveux, et Georges jetait encore des brosses dans le feu et par terre du craie coupé. Quand il n'y pouvait plus voir, tant la mêlée était furieuse, la fumée épaisse et la poussière haut soulevée, il allait quérir 2 siens valets déguisés en sergents de la commune, lesquels chassaient les vieilles de la salle à grands coups de gaule comme un troupeau d'oies furieuses. Et Jos, considérant le champ de bataille, y trouvait des lambeaux de cottes, de chausses, de chemises et vieilles dents. Et bien mélancolique, il se disait: ma journée est perdue, aucune d'elles n'a laissé sa langue dans la mêlée. Claës, étant dans le bailliage de Meiborg, traversait un petit bois. L'âne cheminant broutait les chardons. Eulenspiegel jetait son couvre-chef après les papillons et le rattrapait sans quitter le dos du bonnet. Claës mangeait une tranche de pain, pensant bien l'arroser à la taverne prochaine. Il entendait de loin une campagne tintant et le bruit que fait grande foule d'hommes parlant ensemblement. « Bon, se dit-il, quelque pèlerinage, et messieurs les pèlerins seront nombreux sans doute. Tiens-toi bien, mon fils, sur le roussin, afin qu'il ne te puisse renverser. Allons y voir. Or ça, bonnet, mange mes talons. » Et le bonnet le courir. Quittant la lisière du bois, il descendit vers un large plateau bordé d'une rivière à son versant occidental. Du côté du versant oriental était bâtie une petite chapelle dont le pignon était surmonté de l'image de Notre-Dame et à ses pieds de 2 figurines représentant chacune un taureau. Sur les degrés de la chapelle se tenait, ricanant, un ermite sonnant de la campagne, 50 estafiers tenant chacun des chandelles allumées, des joueurs, sonneurs et batteurs de tambours, clairons, fifres, scalmeilles et cornemuses, et un tas de joyeux compagnons tenant des deux mains des boîtes en fer, pleines de ferraille, mais tous silencieux dans ce moment. 5 000 pèlerins, et même davantage, cheminaient 7 par 7 en rang serré, coiffés de casques et portant des bâtons de bois vert. S'il en venait de nouveau coiffé et armé pareillement, il se rangeait en grand tumulte derrière les autres. Passant ensuite 7 par 7 devant la chapelle, ils faisaient bénir leurs bâtons, recevaient chacun des mains des estafiers une chandelle, et en échange payaient un demi-florin à l'ermite. Et leur procession était si longue que les chandelles des premiers étaient à bout de mèche, tandis que celles des derniers manquaient de s'éteindre par excès de suif. Claes, Ullenspiegel et l'âne, et Bobby, virent ainsi cheminer devant eux une grande variété de porte-bedaines, larges, hautes, longues, pointues, fières, fermes ou tombant lâchement sur leur support de nature. Et tous les pèlerins étaient coiffés de casques. Ils en avaient, venant de Troie, et semblables à des bonnets phrygiens ou surmontés d'aigrettes de crin rouge. D'aucuns, quoique mafflus et pansards, portaient des casques à ailes étendues, mais n'avaient nulle idée de volerie. Puis venaient ceux qui étaient coiffés de salade, dédaignés des limaçons, à cause de leur peu de verdure. Mais le grand nombre portait des casques si vieux et si rouillés qu'ils semblaient dater des Cambrius, roi de Flandre, et de la bière, lequel roi a vécu 900 ans avant notre Seigneur et se coiffait d'une pinte, afin de n'être point forcé de ne pas boire faute de gobelets. Tout à coup, tintèrent, geignirent, tonnèrent, battirent, glapirent, bruirent, cliquetèrent, cloches, cornemuses, scalmeilles, tambours et ferrailles. À ce vacarme qui fut un signal pour les pèlerins, ils se retournèrent, se plaçant par bandes de 7 face à face, et s'entreboutèrent chacun en guise de provocation leur chandelle flambante sur la physionomie, ce qui causa de grands éternuements. Et le bois vert de pleuvoir, et ils s'entrebattirent du pied, de la tête, du talon et de tout. D'aucuns se ruaient sur leurs adversaires à la façon des béliers, le casque en avant, qu'ils s'enfonçaient jusqu'aux épaules et allaient aveugler, tombaient sur une septaine de furieux pèlerins, lesquels les recevaient sans douceur. D'autres pleurards et couards se lamentaient à cause des coups, mais tandis qu'ils marmonnaient leur dolente paternotre, se ruaient sur eux, rapides comme la foudre, 2 septaines de pèlerins s'entrebattant, jetant par terre les pauvres pleurards et marchant dessus sans miséricorde. Et l'ermite riait. D'autres septaines, se tenant comme raisins en grappe, roulaient du haut du plateau jusque dans la rivière où ils se daubaient encore à grands coups sans rafraîchir leur fureur. Et l'ermite riait. Ceux qui étaient demeurés sur le plateau se pochaient les yeux, se cassaient les dents, s'arrachaient les cheveux, le pourpoint et le haut de chausse. Et l'ermite riait et disait « Courage, ami, qui frappe chien n'en aime que mieux. Au plus battant les amours de leur belle, Notre-Dame de Risbyt belle, c'est ici qu'on voit les mâles. » Et les pèlerins s'en donnaient à cœur joie. Claes, dans l'entretemps, s'était approché de l'ermite, tandis que Ullenspiegel, riant et criant, applaudissait au cou. « Mon père, dit-il, Quels crimes ont donc commis ces pauvres bons hommes pour être forcés de se frapper si cruellement ? Mais l'ermite, sans l'entendre, criait « Fainéant, allez-vous perdre courage ? Si les poings sont là, les pieds le sont-ils ? Vive Dieu, il en est de vous qui ont des jambes pour s'enfuir comme des lièvres. Qui fait jaillir le feu de la pierre ? Le fer qui l'abat, alors qu'est-ce qui anime la virilité des vieilles gens ? Sinon une bonne plâtre et deux coups, eh bien qu'assaisonner de ma rage. » À ce propos, les bons hommes pèlerins continuaient à s'entrebattre du casque, des mains et des pieds. C'était une furieuse mêlée, où l'Argus au sentier n'eut rien vu que la poussière soulevée et quelques bouts de casque. Soudain, l'ermite tinta de la campagne, fifre, tambour, trompette, cornemuse, solmeil et ferraille cessèrent leur tapage. Et ce fut un signal de paix. Les pèlerins ramassèrent leurs blessés. Parmi ceux-ci furent vues plusieurs langues épaisses de colère et qui sortaient des bouches des combattants, mais elles rentrèrent d'elles-mêmes en leurs palais accoutumés. Le plus difficile fut d'ôter les casques à ceux qui se les étaient enfoncés jusqu'au cou et se secouaient la tête, mais sans les faire plus tomber que des prunes vertes. Cependant, l'ermite leur disait « Récitez chacun un ave et retournez auprès de vos commères. Dans 9 mois, il y aura autant d'enfants de plus dans le bailliage qu'il y eut aujourd'hui de vaillants champions à la bataille. » Et l'ermite chanta l'ave, et tous le chantèrent avec lui, et la campagne tintait. L'ermite alors les bénit au nom de Notre-Dame de Rinsbisbel, et leur dit « Allez en paix !» Ils s'en furent, criant, se bousculant et chantant jusqu'à Maybourne. Toutes les commères, vieilles et jeunes, les attendaient sur le seuil des maisons, où ils entrèrent comme des soulards en une ville prise d'assaut. Les cloches de Maybourne sonnaient à toute volée, les garçonnets sifflaient, criaient, jouaient du rumble-pot. Les pintes à nappes, gobelets, verres, flacons et chopines tintinabulaient merveilleusement. Et le vin coulait à flots dans les gosiers. Pendant cette sonnerie, et tandis que le vent apportait de la ville à Claës par bouffées des chants d'hommes, de femmes et d'enfants, il parla de rechef à l'ermite et lui demanda quelle était la grâce céleste que ces bons hommes prétendaient obtenir par ce rude exercice. L'ermite, riant, lui répondit « Tu vois, sur cette chapelle, 2 figures sculptées représentant 2 taureaux. Elles y sont placées en mémoire du miracle que fit Saint Martin changeant 2 bœufs en taureaux en les faisant s'entrebattre à coups de corne. Puis il les frotta d'une chandelle sur le buffle de bois vert pendant 1 heure et davantage. » Sachant le miracle, et muni d'un bref de sa sainteté que je payais bien, je vins ici m'établir. Dès lors, tous les vieux, tous ceux et porte-monnaies de Maybourne et pays d'alentour, par moi patrocinés, furent certains qu'après s'être battus fortement avec la chandelle qui est l'onction et le bâton qui est la force, ils se rendraient Notre-Dame favorable. Les femmes envoient ici leurs vieux maris. Les enfants qui naissent par la vertu du pèlerinage sont violents, hardis, féroces, agiles et forment de parfaits soudards. » Soudain, l'ermite dit à Claës, « Me reconnais-tu ? » ?»« Oui, » répondit Claës, « tu es mon frère Jos. » »« Je le suis, » répondit l'ermite. « Mais quel est ce petit bonhomme qui me fait des grimaces ?»« C'est ton neveu, » répondit Claës. « Mais quelle différence fais-tu entre moi et l'empereur Charles ?»« Oh, elle est grande, » répondit Claës. Elle est petite, repartit Jos, car nous faisons tout de lui, s'entretuer, moi, s'entrebattre des hommes pour notre profit et plaisir. Puis il les conduisit dans son ermitage, où ils menèrent noces et festins, durant 11 jours, sans trêve. Claès, en quittant son frère, remonta sur son âne, ayant Eulenspiegel en croupe derrière lui. Il passa sur la grande place de Maïborg. Il y vit assemblés par troupes un grand nombre de pèlerins qui, les voyant, entrèrent en fureur et brandissant leurs bâtons, tous soudain crièrent « Vauriens !» à cause de Eulenspiegel, qui, ouvrant son haut de chausse, retroussait sa chemise et leur montrait son faux visage. Claès, voyant que c'était son fils qu'il menaçait, dit à celui-ci « Mais qu'as-tu fait pour qu'il t'en veuille ainsi ?»« Cher père, répondit Eulenspiegel, je suis assis sur le baudet, ne disant rien à personne, et cependant ils disent que je suis un vaurien. » Claès alors l'assit devant lui. Dans cette posture, Eulenspiegel tira la langue aux pèlerins, lesquels, vociférant, lui montèrent le poing et, levant leurs bâtons de bois, voulurent frapper sur Claès et sur l'âne. Mais Claès talonna son âne pour fuir leur fureur, et tandis qu'il le poursuivait, perdant le souffle, il dit à son fils « Tu es donc né dans un bien malheureux jour, car tu es assis devant moi. Tu ne fais tort à personne et ils veulent t'assommer. » Eulenspiegel riait. Passant par Liège, Claès apprit que les pauvres rivageois avaient grand faim et qu'on les avait mis sous la juridiction de l'official, tribunal composé de juges ecclésiastiques. Ils firent émeute pour avoir du pain et des juges laïcs. Quelques-uns furent décapités ou pendus, et les autres bannis du pays, tant était grande pour l'heure la clémence de Monseigneur de la Marque le doux archevêque. Claès vit en chemin les bannis, fuyant le doux vallon de Liège, et aux arbres près de la ville le corps des hommes pendus pour avoir eu faim. Et il pleura sur eux. Quand, monté sur son âne, il rentra au logis, muni d'un sac plein de patards que lui avait donné son frère Jos, et aussi d'un bohanap en état d'Angleterre, il y eut dans la chaumière ripaille dominicale et festin journalier, car il mangeait tous les jours de la viande et des fèves. Claès remplissait de double cuite et vidait souvent le grand anab d'État d'Angleterre. Eulenspiegel mangeait pour trois et patrouillait dans les plats comme un moineau dans un tas de grains. « Ah, voici, dit Claès, qu'il mange aussi la salière. » Eulenspiegel répondit « Quand, si que chez nous, la salière est faite d'un morceau de pain creusé, il faut la manger quelquefois, de peur qu'en vieillissant, les vers ne s'y mettent. « Mais pourquoi, dit Soutkin, essuie-tu tes mains graisseuses à ton haut de chausse ?»« Mais c'est pour avoir jamais les cuisses mouillées, répondit Eulenspiegel. » Sur ce, Claes but un grand coup de bière en son hanap. Eulenspiegel lui dit « Pourquoi as-tu une si grande coupe? Moi, je n'ai qu'un chétif gobelet. » Claes répondit, « Parce que je suis ton père et le baise de Séan. » Eulenspiegel repartit, « Tu bois depuis 40 ans, je ne le fais que depuis 9. Ton temps est passé, le mien est venu de boire, donc c'est à moi d'avoir le hanap et à toi le prendre le gobelet. » Fils, dit Claes, celui-là jetterait sa bière au ruisseau qui voudrait verser dans un barillet à la mesure d'une tonne. Tu seras donc sage en versant ton barillet dans ma tonne, car je suis plus grand que toi à nappe, répondit Eulenspiegel. Ha ! Claes, joyeux, lui bailla son nappe à vider. Et ainsi Eulenspiegel apprit à parler pour boire. Sutkin portait sous la ceinture un signe de maternité nouvelle. Kathleen était enceinte pareillement, mais par peur, n'osait sortir de sa maison. Quand Sutkin l'allait voir, « Ah, oh, oh, lui disait la dolente engraissée, que ferais-je du pauvre fruit de mes entrailles? Faudra-t-il étouffer? Oh, j'aimerais mieux mourir. Mais si les sergents me prennent ayant un enfant sans être marié, ils me feront, comme à une fille d'amoureuse vie, payer 20 florins, et je serai fouetté sur le grand marché. » Sutkin lui disait alors quelques douces paroles pour la consoler, et l'ayant quittée, elle revenait songeuse au logis. Donc elle dit un jour à Claes, « Si au lieu d'un enfant j'en avais deux, me battrais-tu, mon homme ?»« Oh, je ne le sais, » répondit Claes. « Mais, dit-elle, si ce second n'était point sorti de moi et fut comme celui de Kathleen, l'œuvre d'un inconnu, du diable peut-être. » « Oh, les diables, répondit Claes, produisent feu, mort et fumée, mais des enfants, non. Je tiendrai pour mien l'enfant de Kathleen. »« Tu le ferais, dit-elle. » « Je l'ai dit, répartit Claes. » Sutkin alla porter chez Kathleen la nouvelle. En l'entendant, celle-ci ne se pouvant tenir d'aise, s'exclama ravie. Il a parlé, le bonhomme, parlé pour le salut de mon pauvre corps. Il sera béni par Dieu, béni par diable, si c'est, dit-elle, toute frissante, un diable qui te créa, pauvre petit, qui t'agite en mon sein. Sutkin et Kathleen mirent au monde l'une un garçonnet, l'autre une fillette. Tous deux furent portés à baptême comme fils et filles de Claes. Le fils de Sutkin fut nommé Hans et ne vécut point. La fille de Kathleen fut nommée Neil et vint bien. Elle but la liqueur de vie à 4 flacons, qui furent les 2 de Kathleen et les 2 de Sutkin. Et les deux femmes se disputaient doucement pour savoir qui donnerait à boire à l'enfant. Mais, malgré son désir, force fut à Kathleen de laisser tarir son lait, afin qu'on ne lui demandât point d'où il venait, sans qu'elle eût été mère. Quand la petite Neil, sa fille, fut sevrée, elle la prit chez elle et ne laissa point aller chez Sutkin que lorsqu'elle l'eut appelée sa mère. Les voisins disaient que c'était bien à Kathleen, qui était fortunée de nourrir l'enfant des Claes, qui de coutume vivait pauvrement leur vie besogneuse.